Les séminaires du Collège de France.
J'ai le grand plaisir de présenter le conférencier d'aujourd'hui, Philippe Schlenker. Philippe a étudié en France, puis aux États-Unis. Il a obtenu son doctorat à MIT. Puis il a enseigné à UCLA, donc l'Université de Californie à Los Angeles. Ensuite à l'Université de New York, NYU. Puis il est rentré en Europe. Il est chercheur, en effet directeur de recherche du CNRS. Donc il travaille à l'École normale supérieure, à l'Institut Jean Nicot, au département d'études cognitives de l'École normale. Philippe est un grand spécialiste de sémantique formelle, pragmatique. Ses travaux ont laissé une trace très importante dans l'étude, par exemple, des relations anaphoriques, des dépendances référentielles, des choses dont on a parlé dans le cours, sur la notion de présupposition, par exemple, son travail est très important. Dans les années récentes, avec un groupe de collègues, il a créé cette ligne de recherche appelée parfois superlinguistique ou supersémantique, qui est fondée sur l'idée d'utiliser en détail les instruments analytiques extrêmement détaillés que la linguistique formelle, la grammaire générative, la linguistique moderne en général, a créé pour étudier aussi des phénomènes qui ne sont pas immédiatement linguistiques, qui ne tombent pas immédiatement sous la définition de langue naturelle. Par exemple, les systèmes de la musique ou les systèmes de communication animale. On a un tout petit peu parlé de ce genre de choses. Aujourd'hui, il revient décidément aux langues naturelles, dans leur manifestation orale et dans leur manifestation signée. Et donc, je te cède la parole pour ce séminaire. Merci.
Merci beaucoup, c'est un plaisir et un honneur d'être ici. Je vais présenter des résultats qui sont issus d'une collaboration de plus de 15 ans avec Jonathan Lamberton, qui est un locuteur natif sourd de la langue des signes américaine. J'aimerais suggérer aujourd'hui que la vision de la grammaire adoptée par la linguistique formelle contemporaine est incomplète et en un sens radicalement incomplète. Cette observation s'applique à la sémantique mais aussi à la syntaxe formelle. La raison en est que les langues des signes, pour nous aujourd'hui la langue des signes américaine, ont des expressions hautement iconiques appelées classificateurs qui créent des sortes d'animations visuelles. Un exemple est ceci, le classificateur qui représente un véhicule, comme une voiture, en langue des signes américaine. La forme de ce classificateur est arbitraire, pas particulièrement iconique, mais la position dans l'espace de signation et le mouvement de ce classificateur est d'une part totalement libre et d'autre part interprété de façon entièrement iconique. Donc un mouvement comme ceci signifie que une voiture est passée en ligne droite, et puis un mouvement comme ceci va indiquer qu'une voiture est passée avec un mouvement courbe ressemblant à ceci. Les classificateurs ont non seulement une sémantique d'animation visuelle, mais également une syntaxe non standard que j'appellerais syntaxe iconique. Ces faits généraux sont à certains égards connus depuis longtemps, mais le défi qui se présente à nous aujourd'hui et d'une part de les analyser en détail, et d'autre part de proposer un cadre précis pour les intégrer à la sémantique formelle et également à la syntaxe formelle. Il ne s'agit pas du tout de se débarrasser de la syntaxe et de la sémantique, il s'agit au contraire de les enrichir. Je veux commencer par vous rappeler trois contributions fondationnelles des langues des signes à la linguistique. la première contribution est bien sûr que le langage n'est pas spécifique à la modalité vocale. La phonologie, la morphologie, la syntaxe, la sémantique existent toutes dans des formes abstraites assez similaires, tant dans la parole que dans les signes. La seconde contribution, ça a été de montrer que dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains cas, la modalité signée rend visible des composantes logiques qui sont abstraites ou invisibles dans la parole. C'est le cas des variables. Quand vous dites Sarkozy a dit à Obama qu'il allait être élu, il y a une ambiguïté référentielle pour le pronom « il » qui peut être levée en langue des signes. Je vous montrerai un exemple dans un instant. Et la troisième contribution, ça a été de découvrir que les langues signées ont certes les mêmes types de ressources grammaticales et logiques que les langues parlées, mais qu'elles font un usage beaucoup plus systématique de l'iconicité. D'où cette question, comment est-ce que la sémantique, et je dirais ici la sémantique logique telle qu'elle a été développée depuis Montagu, peut-elle être unifiée avec les phénomènes d'iconicité qu'il y a en langue des signes? Je donnerai une réponse en ébauchant un cadre que j'appelle la sémantique iconologique, parce que c'est une extension de la sémantique logique qui prend en compte ces phénomènes. Alors, pour rendre concret ce que je viens de discuter, je veux vous donner un exemple, en l'occurrence en langue des signes française par langue des signes américaine, de la façon dont on peut lever l'ambiguïté de la phrase « Sarkozy a dit Obama qu'il allait gagner l'élection », c'est un exemple qu'on utilise très souvent. L'idée est que Sarkozy, comme ceci, pour c'est le nom propre correspondant à Sarkozy, pour les oreilles, Obama, ceci, vont correspondre à deux positions distinctes, et que selon qu'on pointe vers une position ou vers l'autre, on aura la lecture « il Sarkozy va être élu, ou va gagner l'élection » ou « il Obama va gagner l'élection ». Le point important, c'est que le pronom est réalisé par pointage, et le pointage peut aller vers une entité de discours ou une autre. Donc voici un exemple. Langue des signes française, je vais vous donner le mot à mot pendant qu'on y va. Ça va être deux réalisations de pratiquement la même phrase avec une distinction sur la signification du pronom. Sarkozy à gauche, Obama à droite, il lui a dit qu'il va gagner l'élection. Sarkozy à gauche, Obama à droite, il lui a dit qu'il va gagner l'élection. Et la différence était uniquement la direction du pointage. Il y avait deux éléments qui se trouvent être des classificateurs, mais là c'est sans importance, l'un représentant Sarkozy, l'autre représentant Obama, et selon que vous pointez vers l'un ou vers l'autre, vous avez la lecture « il Sarkozy » ou « il Obama ». Donc ça c'est le premier, c'est notre première illustration que j'ai ici utilisée pour montrer que dans certains cas, des choses comme aussi abstraites que les variables qui avaient été postulées sur des bases indirectes dans les langues parlées, variables que vous aviez donc dans « Sarkozy a dit Obama qu'il gagnerait l'élection », le petit b et le petit a, qui sont représentées dans certains cas de façon explicite comme des positions dans l'espace de signation, selon que vous pointez vers l'une ou vers l'autre, vous avez une lecture différente pour eux. Maintenant, je veux illustrer l'effet de l'iconicité. L'iconicité, on l'a bien entendu dans les langues parlées, mais de façon un peu limitée. C'est une chose de dire l'exposé était long, c'est une autre chose de dire l'exposé était long. Et quand vous dites l'exposé était long, vous utilisez la longueur de la voyelle pour indiquer que l'exposé était extrêmement long. Mais ce type d'iconicité, qui est un petit peu marginal dans les langues parlées, est très commun dans les langues des signes. Donc, pour vous donner un exemple, en langue des signes américaine, vous pouvez dire « mon groupe s'est agrandi ».« Mon groupe s'est agrandi », comme ça. Et « s'est agrandi » est un élément conventionnel du lexique de la langue des signes américaine. Mais vous pouvez tout à fait décider de le moduler, comme on a modulé le mot long. Vous pouvez, par exemple, avoir « c'est agrandi un petit peu », « c'est agrandi beaucoup ». Donc là, vous avez une première dimension de modification iconique, mais il y a une seconde dimension de modification iconique qui consiste tout simplement dans la rapidité du signe. Donc, quand vous dites « c'est agrandi comme ça beaucoup », vous pouvez décider de réaliser ceci rapidement, et ça signifiera « c'est agrandi beaucoup très vite » ou au contraire, lentement. Et vous pouvez ajouter des éléments plus grammaticaux. Par exemple, il y a, vous pouvez faire des mouvements des doigts qui, là, sont un élément supplémentaire et pas vraiment pas iconique. Donc ça, ce sont, si vous voulez, les éléments de base avec lesquels on va travailler. C'est un système logico-grammatical du même type que celui qu'on a dans les langues parlées. Dans certains cas, et dans certains cas seulement, rien de systématique là-dedans, des choses qui sont abstraites dans les langues parlées sont visibles dans les langues signées. Et puis, il y a cette question de l'iconicité qui va beaucoup nous intéresser. Donc, je vais soutenir les thèses suivantes. La première, c'est que la sémantique des langues naturelles est l'union de la sémantique logique traditionnelle, c'est-à-dire traditionnelle au sens où elle a été développée par la linguistique formelle depuis les années 70, et d'une sémantique des images. C'est une sémantique des images modifiées, parce qu'on va parler non pas d'images statiques, mais d'animation visuelle. Et du point de vue théorique, ce que l'on doit faire, c'est faire usage du cadre extraordinairement clair et transparent qui a été développé récemment par des philosophes et des linguistes, mais pour des objets non linguistiques, à savoir les images. C'est ce qu'on appelle la sémantique formelle des images, due à Gabriel Greenberg et Dorit Habush. On doit intégrer ce cadre-ci avec le cadre de la sémantique logique qui existe depuis à peu près 55 ans. Et la seconde thèse sera qu'il existe un fait théorique du même type dans la syntaxe, au sens où la syntaxe des langues naturelles est l'union de la syntaxe traditionnelle telle qu'elle a été présentée par Luigi Rizzi dans ce cours, et d'une syntaxe véritablement de type pictural, dans laquelle on met les représentations dans l'ordre dans lequel on les trouverait dans des bandes dessinées. Et le lien entre les deux parties, ce sera que les classificateurs dont j'ai parlé au début ont non seulement une sémantique non standard, à savoir une sémantique iconique, mais ils ont en outre une syntaxe non standard en raison de leur sémantique non standard. C'est-à-dire qu'ils renversent à l'intérieur même de la langue des signes américaine, ces classificateurs modifient l'ordre des mots. C'est comme si on avait un petit cœur de sémantique et de syntaxe presque entièrement iconique au sein d'un système, la langue des signes américaine, qui se comporte comme, en première analyse, comme les langues parlées pour ce qui est de la syntaxe et de la sémantique. Alors, pour rendre concret ce vers quoi on se dirige, je vais vous donner un exemple un petit peu simplifié d'une phrase dans laquelle on va être obligé d'opérer une agrégation entre le cœur logique de la langue des signes américaine et une construction très iconique. La phrase signifie celle-ci, elle est un petit peu plus compliquée que ce que je vais vous montrer, mais il s'agit d'un cours, et le pauvre prof ou quelqu'un d'autre dit, pendant la pause, il y a toujours un étudiant qui part. Et la lecture, c'est que ça peut être des étudiants à chaque fois différents. Okay. Et la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci, c'est toujours... Il y a un étudiant, et ce qu'on dirait normalement, c'est qu'il part, et ça, c'est simplement le verbe partir, qui est un verbe qui n'est pas particulièrement iconique de la langue des signes américaine. Si c'était ça, vous auriez le type de forme logique simplifiée que je vous montre ici. Toujours, il y a un étudiant qui part. Mais vous pouvez aussi utiliser un classificateur qui représente une personne debout. Et maintenant, le mouvement précis du classificateur va être interprété. C'est-à-dire que ça n'aura pas le même sens de dire qui part comme ça, qui part comme ça, qui part vite, qui part lentement, etc. Vous avez toutes ces modifications possibles. Et là, c'est très intéressant parce que vous allez avoir une interaction entre ce truc qui est en fait une animation visuelle simplifiée et le reste de la phrase qui a la structure logico-grammaticale que vous avez dans d'autres exemples. Je vais vous donner un exemple. Alors, les exemples jusqu'à présent sont des exemples totalement visibles. Ensuite, pour protéger les consultants, il y aura des exemples semi-anonymisés, mais vous pourrez quand même voir ce qui se passe. Donc, voilà cette phrase dans la version qui m'intéresse. Donc, ça, c'est dans le cours à la pause. Et là, c'est dans tous les cours à la pause, toujours. Et ensuite, il y a, et c'est là qu'on va avoir ce qui nous intéresse, un étudiant. Et ce qui m'intéresse, c'est la fin que vous avez. Donc, toujours à la pause, il y a un étudiant qui part. Et vous pouvez moduler ce truc de plein de façons différentes. Et donc là, vous avez besoin, évidemment, d'une forme logique dans laquelle, comme dans le cas précédent, vous allez avoir toujours, il y a un étudiant, c'est un peu simplifié, je ne dis pas dans tous les cours, il y a toujours un étudiant qui part à la pause. Donc vous allez avoir ça. Vous allez avoir ce petit élément avec CL comme suffixe qui vous dit que c'est un classificateur et qui va dire au système qu'il s'agit d'une partie iconique de l'interprétation. Ah. Mais maintenant, pensez un peu à ce qui se passe si vous pensez à ceci, c'est pas tout à fait correct, mais c'est pas grave, comme une vidéo. Pour interpréter ce mouvement de l'étudiant qui part, donc je vous montre une vidéo, une image, une photo, etc. Pour comprendre le sens qui est créé par cette vidéo ou par cette image, il faut savoir quelle est la perspective. Puisque évidemment, si la photo ou la vidéo est prise d'un bout de la classe, ça ne donne pas du tout l'information que si elle est prise d'un autre bout de la classe. Et évidemment, compte tenu du contexte, très certainement, le point de vue, c'est le point de vue du prof. Okay. Et donc là, j'ai mis quelque chose qui est pire, qui est une variable de point de vue. Et c'est une variable de point de vue dans un sens très littéral. C'est la position de la caméra d'après laquelle il faut interpréter cette petite animation visuelle que vous avez là. Évidemment, je pourrais m'arrêter là et vous dire, bah, vous voyez, il y a une représentation iconique, il y a une notion de point de vue, un sens très littéral, qui est la position où vous avez mis la caméra ou la caméra vidéo, et puis tout ça va s'intégrer avec le reste de la phrase. Mais cet exemple-ci a été construit pour vous montrer quelque chose de plus sophistiqué, que c'est un contexte dans lequel il y a un professeur, ou il peut y avoir plusieurs professeurs, qui font des cours dans différents amphis. Et évidemment, il n'y a pas moyen de dire qu'il y a une position unique qui est la position de la caméra, par exemple, dans cet amphi-ci. Parce que si vous mettez la petite caméra dans cet amphi-ci, ce n'est pas possible que ça représente ce qui se passe dans un autre amphi. Et c'est pour ça que la phrase réelle, elle est un peu plus compliquée. Dans tous les cours, il y a toujours un étudiant qui, à la pause, fait ça. Mais fait ça, ça doit être interprété de différents points de vue. Différents points de vue pour les différents cours. Okay? Et ça, comment est-ce qu'on va le traiter? On va dire que cette variable de point de vue, elle dépend ici d'un quantificateur existentiel qui va vous dire toujours, il y a un point de vue saillant, en fait, ça va être dans ce cas-ci, le point de vue du professeur, mais dans d'autres cas, ce sera autre chose. Donc toujours, il y a un point de vue saillant, tel qu'il y a un étudiant qui, de ce point de vue saillant, fait ça. Et ça, c'est le principal message que je veux vous transmettre aujourd'hui. C'est que dès que vous avez une analyse précise de l'iconicité en langue des signes, vous vous rendez compte qu'elle doit interagir d'une façon très sophistiquée avec toute la composante logico-grammaticale de la langue des signes. Et là, quoi de plus sophistiqué, si vous voulez, qu'une relation entre une variable de point de vue et un quantificateur. Maintenant, le second point que je vais développer, et ensuite on pourra passer plus ou moins de temps sur différentes parties, parce que vous aurez la substantifique moelle de cette présentation, c'est que de même que pour bien analyser la langue des signes, il faut étendre la sémantique logique des 50-60 dernières années pour qu'il y ait une composante iconique qui interagit avec elle, eh bien on va trouver quelque chose de similaire dans la syntaxe. Pourquoi ? L'idée est en fait très simple. L'ordre de base des mots dans la langue des signes américaine, c'est SVO. C'est un ordre relativement libre, donc il faut prendre pas mal de précautions pour tester ça, mais il y a une convergence entre les syntacticiens de la langue des signes américaine pour dire que l'ordre de base, c'est SVO. Mais les gens ont observé, depuis très longtemps, que quand le verbe n'est pas un verbe, mais un classificateur, ça peut être, par exemple, quelque chose qui représente un crocodile, qui se déplace, qui se déplace, qui se déplace, et qui avale quelque chose, par exemple une balle. L'ordre change. Au lieu d'avoir SVO, vous avez SOV, dans mes données parfois OSV, mais ce qui est important, c'est que l'objet vient avant le verbe. Et tout ça peut paraître très mystérieux. Mais en fait, l'idée qui a guidé d'autres recherches, pas tellement la recherche sur les classificateurs, mais d'autres recherches sur d'autres sujets, c'est que dans certains cas, pour des expressions très iconiques, vous mettez les mots dans l'ordre dans lequel ils apparaîtraient dans une bande dessinée. Donc vous avez un crocodile, vous avez, disons, un ballon. Et bien, vous allez voir d'abord le crocodile et le ballon, et le crocodile qui mange le ballon, c'est la dernière chose que vous verrez. Et ça, c'est la raison pour laquelle le verbe vient à la fin. C'est parce que vous voyez typiquement le crocodile et le ballon avant de voir l'action du crocodile qui se déplace et qui mange le ballon. Mais ça, ça fait une prédiction. La prédiction, c'est que si vous avez quelque chose de minimalement différent, c'est pas le crocodile qui avale un ballon, c'est un crocodile qui avait avalé un ballon il y a quelques heures, qui tout à coup se déplace et recrache le ballon. Ben vous voyez que là, les choses sont complètement différentes dans une bande dessinée, parce que vous voyez le crocodile qui se déplace, qui se déplace, qui se déplace, mais vous ne voyez pas encore le ballon. Et c'est à la fin que vous allez voir le ballon. Et donc ça fait la prédiction que l'on retrouve un ordre SVO, précisément quand le sens du verbe, ça n'est pas avalé, c'est recraché. Et c'est ce qu'on va voir. Pour ceux qui s'intéressent à ça, la généralisation dans la littérature, c'était construction extensionnelle versus intentionnelle. Intentionnelle, c'est par exemple chercher, penser à, etc. C'est pas la généralisation correcte. Et là, je vous donne ce qui me semble être la généralisation correcte. Donc voilà ce qu'on va faire. Et maintenant, je vais passer quelques minutes à ébaucher très rapidement l'outil principal qu'on va utiliser, qui vient de la philosophie, la sémantique formelle des images, et qu'on va ensuite intégrer avec de la sémantique logique. Et je vais vous le dire de façon très informelle. Le philosophe Gabe Greenberg s'est demandé, mais finalement, qu'est-ce que c'est que le sens d'une image ? Et pensez vraiment à une image très simple, une peinture simplissime. Ce que vous avez là, une représentation d'un cube. Ben, ce qu'il dit, c'est que pour comprendre le contenu informationnel d'une image comme vous l'avez dans B, il faut savoir par quelle règle de projection géométrique l'image a été construite. Bon, alors, et pour ça, il faut un point de vue. Le point de vue, c'est un certain point qui correspond, si vous voulez, à l'œil. Vous avez aussi le plan qui correspond au plan de l'image. Et puis ensuite, vous avez des règles de projection. Ça, c'est la projection en termes de perspective. Et chaque fois que vous avez une ligne qui rencontre une arête, une ligne qui part, si vous voulez, de l'œil et qui rencontre une arête d'un objet dans le monde réel, eh ben, vous mettez un point sur l'image. Et c'est pour ça que vous avez cette représentation-là. Et ce que Greenberg a dit, c'est que de cela, vous pouvez tirer une sémantique formelle des images qui va vous dire de façon complètement systématique, quand vous connaissez la méthode de projection, quand vous connaissez le point de vue, essentiellement, à quelles conditions l'image est vraie de ce point de vue-là. Okay. Greenberg ajoute une seconde notion qui est utile, très utile pour la linguistique, c'est que non seulement on va avoir une notion de vérité pour une image entière, mais on va avoir une notion de dénotation pour des objets qui sont dans une image. Donc vous voyez ici, très simplement, vous avez deux cubes qui sont représentés, et avec les mêmes méthodes de projection, vous pouvez voir que le cube rose de l'image va dénoter la forme rose de l'image va dénoter le cube bleu dans le monde réel. Et donc on a non seulement une notion de vérité pour une image, ce qui est évidemment crucial pour la sémantique, mais également une notion de dénotation. Et maintenant, il y a une troisième notion que l'on va utiliser. C'est une notion qui vient de Dorit Habouch, qui s'intéressait à la sémantique des bandes dessinées silencieuses. Et on prend le cas le plus simple d'une bande dessinée silencieuse, l'image P1, l'image P2, et vous appliquez la sémantique de Greenberg. Donc ça va vous dire que d'un certain point de vue, on est dans un monde dans lequel il y a un cube pâle et un cube gris foncé. Ils sont gris pâle et gris foncé. Et à la seconde image, évidemment, ce que vous avez envie d'inférer, c'est que les deux cubes se sont séparés. Mais Habouch fait remarquer que la sémantique de Greenberg nous donne quelque chose de plus faible. Elle nous dit, au moment de la première image, il y avait un cube gris pâle et un cube gris foncé ensemble. Au moment de la seconde image, il y avait un cube gris pâle et un cube gris foncé qui étaient plus loin l'un de l'autre, mais rien ne nous dit qu'il s'agit des mêmes cubes que ceux qu'il y avait à la première image. Et à ce moment-là, Dorit Habouch propose de dire qu'il y a des variables cachées dans ces représentations picturales. Ces variables cachées vont désambiguer la relation référentielle et vont vous dire qu'il s'agit bien des deux mêmes cubes, c'est-à-dire vous avez une variable V1 qui va représenter qui va dénoter le cube gris pâle, une variable V2 qui va représenter le cube gris foncé, et si vous mettez les mêmes deux variables dans la deuxième image, vous allez avoir quelque chose qui spécifie que dans la deuxième image, il y a un cube gris pâle qui est représenté par cette première forme, il y a un cube gris foncé qui est représenté par cette seconde forme, et en outre, le cube gris pâle est le même que celui que vous aviez dans la première image, et le cube gris foncé est le même que celui que vous aviez à droite dans la première image. Et donc ça, ce sont tous les outils qu'on va utiliser. Une chose qui est assez remarquable, si vous implémentez les choses comme ça, si les variables sont vraiment associées à des formes, même si on ne voit pas les variables, mais elles sont associées à des formes, et bien vous avez un peu étonnant, qui est que les variables se déplacent dans les images. Et je vous demande de garder ça en tête. Les variables peuvent parfois se déplacer. Alors, si on veut appliquer ça, ce type de cadre à la langue des signes, il faut changer plein de choses. Dans les classificateurs de la langue des signes, on a affaire à des animations, pas à des images statiques. Ce sont des animations 3D, ce ne sont pas des images 2D. Il y a une composante partiellement conventionnelle, comme le cas du classificateur qui dénote un véhicule dans la langue des signes américaine. Donc il faut faire plein de modifications. Mais pour nous, ce qui est très utile, c'est qu'on a la forme d'une théorie explicite des images. Peut-être que je déplace mon micro. Donc on a la forme d'une sémantique explicite. Et maintenant, je vais l'utiliser pour revisiter différents phénomènes grammaticaux de la langue des signes. Donc je vais d'abord revisiter ces variables visibles dont j'ai dit auparavant qu'elles peuvent être rendues visibles en langue des signes française, mais aussi langue des signes américaine, par des points dans l'espace de signation. Vous vous rappelez, selon qu'on pointe à droite ou qu'on pointe à gauche, le pronom correspondant au pointage peut désigner Sarkozy ou Obama. Mais donc on appelle ces positions des lieux. Les lieux, ce sont, dans le cadre du moins de cet exposé, des représentations visibles des variables dans l'espace de signation. Parfois, les variables sont invisibles, comme dans les langues parlées, mais parfois elles sont visibles. Mais le pointage est plus sophistiqué que simplement pointer dans différentes parties d'un plan horizontal. Vous pouvez aussi pointer vers le haut quand vous voulez parler d'une personne qui est très grande. Donc là, vous avez un vieil exemple, la langue des signes américaine, où on parle d'une personne qui s'appelle R. Ça, c'est le R de l'alphabet manuel. R signé vers le menton, peut-être parce que la personne a une petite barbe. On a créé ce nom simplement parce qu'on ne voulait pas pouvoir le mettre, comme par exemple pour Anne, dans différentes positions de l'espace de signation. Donc c'est ambigu, si vous voulez, en termes de la position. Donc, hier, j'ai vu R. Et on continue. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas compris. Et là, on pointe vers le haut. Alors, si vous donnez ça sans contexte, la phrase va être très bizarre. Mais si vous demandez à votre consultant quel est un contexte dans lequel vous pouvez dire ça, la réponse sera c'est un contexte dans lequel la personne R est grande, puissante ou importante, mais en particulier grande. Pourquoi ? Parce que vous pointez vers la position imaginaire, si vous voulez, de la tête. Et ça, c'est alors que la personne n'est pas même là. Ce pointage haut a des propriétés tout à fait extraordinaires. Donc, pour ceux qui ont travaillé là-dessus, comme les traits de genre dans les langues parlées, il versus elle, par exemple, ça déclenche une présupposition, pas une assertion, une présupposition que la personne est grande. Plus remarquable encore, comme les traits de genre et les traits de personne dans les langues parlées, vous pouvez, sous certaines conditions, ignorer ce trait-là sous l'ellipse. Donc il y a une interaction extraordinaire avec la grammaire. Mais vous pourriez vous demander comment est-ce qu'on sait qu'il y a véritablement quelque chose d'iconique dans ce pointage. Vous pourriez dire, certes, il peut y avoir une source gestuelle dans certains signes, mais est-ce qu'on a véritablement de l'iconicité en action ? L'iconicité, c'est la propriété d'un signe qui dénote, en vertu de sa ressemblance avec l'objet dénoté, et de l'iconicité en action, ça voudrait dire que quand vous modifiez la forme éventuellement de façon graduelle, vous modifiez la signification de façon graduelle aussi. Et la logique de cela, c'était des exemples, tant en langue des signes française qu'en langue des signes américaine, qui, ce sont des exemples un peu complexes parce qu'ils montraient en outre le phénomène de l'interaction avec l'ellipse que je vous ai évoqué, mais sur lequel je ne veux pas me focaliser. C'était des exemples dans lesquels il va s'agir de deux infortunées personnes qui s'entraînent pour devenir astronautes. Et évidemment, comme elles s'entraînent pour devenir astronautes, elles vont être dans tout un tas de positions. Donc elles peuvent être en position debout dans une certaine phrase, dans une position diagonale dans une autre, dans une position diagonale avec la tête en bas dans une troisième, et dans une position verticale avec la tête en bas dans une quatrième. Et on a corrélé ça avec un contexte dans lequel la personne de droite est très grande, c'est un géant. Et on dit dans ce cadre-là, lui s'aime lui-même. C'est de la langue des signes française, il y aurait des choses similaires en langue des signes américaine. Donc, lui, je pointe vers le haut parce que la personne est grande, s'aime lui-même. Et le réflexif, ça c'est le réflexif, qui est lui-même vers le haut parce que la personne est grande. Ça c'est juste une réplication de ce qu'on a vu auparavant. Mais maintenant, on peut regarder des phrases dans lesquelles les deux personnes, et en particulier le géant, sont dans cette position-ci, dans cette position-ci, dans cette position-là. Et le pointage va suivre de façon graduelle la position figurée de la tête. Non seulement ça, mais vous avez ça avec le pointage standard, vous avez ça avec le pronom réfléchi aussi. Et là, vous avez une interaction frappante entre la grammaire et l'iconicité. Un cas tout à fait frappant, c'est un cas dans lequel vous parlez de gymnastes qui sont sur une barre horizontale et ils sont de différentes tailles. Vous avez en particulier un gymnaste très grand. Et vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez « il s'aime lui-même, très content de lui ». Et ensuite, vous pouvez dire « ah mais tout à coup, les gymnastes ont fait une rotation sur la barre ». Et là, pour désigner la personne très grande qui est au bout de la barre, au lieu de pointer vers le haut, vous allez pointer vers le bas. Pourquoi ? Parce que la position de la personne, dans un même discours, a changé. Et elle est vers le bas. Et là, la chose frappante à remarquer, c'est que vous avez des variables visibles, mais des variables visibles qui se déplacent. C'est-à-dire que ce qui désignait le gymnaste au début, quand il était dans cette position-là, va aller vers le bas parce que dans la après-rotation, la tête du gymnaste est vers le bas. Et c'est quelque chose que l'on a vu il y a quelques minutes, ce fait de variables qui se déplacent. C'est exactement ce qu'on avait besoin de dire dans la sémantique des images de Dorita Bush. C'est qu'il y a parfois des variables qui se déplacent. Et c'est totalement naturel dans une sémantique des images. Et maintenant, je veux très simplement évoquer la façon dont formellement on peut mettre en œuvre ces idées-là. Les détails ne sont pas très importants, je vais le dire de façon très informelle. On part du modèle de la sémantique des pronoms féminins, par exemple. Donc, vous avez un pronom, vous avez un trait féminin et vous avez une variable A. Parce que le pronom peut désigner différentes personnes, ce pronom peut interagir avec des quantificateurs, etc. Et il va y avoir une certaine présupposition. C'est-à-dire que la dénotation de A, ce qu'on appelle S de A, parce que S est une fonction d'assignation qui détermine la dénotation des variables, doit satisfaire les présuppositions qui sont introduites par le trait féminin. Et quand il n'y a pas d'échec présuppositionnel, quelle est la dénotation de A ? Bah, c'est évidemment ce que dit la fonction d'assignation S de A. Et on va étendre ce cadre formel pour parler des lieux, mais maintenant des lieux iconiques. C'est-à-dire le lieu haut qui représente une personne qui est très grande. Il va y avoir, c'est pas vraiment un trait, mais c'est une réalisation iconique dans laquelle la personne est très grande. Il va y avoir une variable A. Et puis, il va y avoir une variable de point de vue, celle que j'ai annoncée d'emblée, qui va dire au système qu'il y a quelque chose d'iconique Et quand, dans des cas plus compliqués, cette variable de point de vue va pouvoir dépendre de certains quantificateurs. Et là, comment va fonctionner la sémantique ? La sémantique va dire la présupposition est que la projection de l'individu et que l'individu ou plus exactement la tête de l'individu se projette dans une certaine partie de l'espace de signation considéré comme image. Alors, se projette dans un certain monde d'évaluation qui s'appelle W, à un certain moment d'évaluation qui s'appelle T, parce que évidemment la position de l'individu peut changer. Et c'est là le point qui est crucial, c'est que cette projection se fait d'un certain point de vue, le même point de vue que l'on a introduit dans la sémantique des images de Greenberg. C'est cette notion de position de la caméra qui joue un rôle crucial. Et donc vous avez cette notion de l'objet dénoté doit se projeter vers le point qui correspond à celui vers lequel j'ai pointé, du point de vue de la variable de point de vue qui apparaît ici, à un certain moment et dans un certain monde. Et donc la présupposition, c'est que la tête de la personne est vers le haut, et évidemment la dénotation, ça va être la dénotation normale, ce que vous dit la fonction d'assignation d'habitude. Donc ça, c'était pour illustrer, dans le cas le plus simple, cette sémantique iconologique. Et vous voyez maintenant pourquoi ça s'appelle sémantique iconologique. Il y a la sémantique logique qui va avoir des variables, qui va produire des conditions de vérité, qui va vous donner une évaluation de certaines choses par rapport à une certaine fonction d'assignation, à un certain temps, à un certain monde possible. Il y a une représentation iconique. La représentation iconique, elle vous donne aussi des conditions de vérité relativement à une certaine fonction d'assignation. Pourquoi ? Parce que Dorita Bush a proposé qu'il y a des variables cachées dans les représentations iconiques, relativement à un certain moment, relativement à un certain monde possible. Et la seule chose qui manque, c'est que vous avez dans ces représentations iconiques cette notion de point de vue qui est cruciale pour avoir cette notion de représentation dans une certaine perspective. Et il faut gérer cette notion de point de vue. Comment on le fait ? Par des variables de point de vue. C'est ça qu'on a fait. Et maintenant, je veux appliquer ce cadre au classificateur. Okay, c'est-à-dire vraiment ce cœur totalement iconique de la langue des signes. Là, vous avez une représentation de ce classificateur de véhicules que vous avez en langue des signes américaine. Et on va faire... on va développer une version plus systématique de cette sémantique iconique, mais elle va interagir avec le cœur de la sémantique logique. Alors, je vais partir d'un exemple. L'exemple compare un nom habituel de la langue des signes américaine. C'est le nom pour un avion, qui est comme ça. Et il y a une petite répétition, parce que ça, c'est une forme habituelle de la morphologie de la langue des signes américaine, c'est que les noms impliquent une petite répétition. Les classificateurs n'impliquent pas cette répétition. Et donc, il va y avoir un contraste minimal entre le nom avion habituel et le classificateur, qui représente un avion, mais qui n'a pas cette répétition-là. Et en outre, vous verrez que le nom, eh ben, il est dans une position fixe, ou plus ou moins fixe, alors que le classificateur il peut être dans différentes positions. Et je vais vous montrer maintenant une paire minimale entre deux phrases qui signifie ici chaque fois que un avion et un avion décollent en même temps, il y a un danger. Mais la première phrase va dire un avion et un avion, ça va vous dire chaque fois qu'il y a deux avions, quelle que soit leur position. La seconde phrase va utiliser des classificateurs, avion, avion, et ça signifiera quand il y a deux avions proches l'un de l'autre et parallèles. Pourquoi parallèles ? Parce que ça vous donne une idée de la direction dans laquelle l'avion égaré. Et voilà maintenant, sous une version semi-anonymisée, la vidéo. Ici, chaque fois qu'un avion, en même temps décolle, danger. Ici, chaque fois qu'un avion, en même temps décolle, danger. Donc vous voyez, il y a deux différences. Il y a cette petite répétition qui est difficile à voir au début, mais il y a le fait que le nom est forcé d'être dans un espace relativement neutre. Et dans le second cas, vous avez les classificateurs, vous n'avez pas la répétition, et ils sont représentés dans la position dans laquelle ils sont garés. Et les sens sont différents. Okay, ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est que dans le second cas, la signification, c'est non pas chaque fois que deux avions, quelle que soit leur position, décollent en même temps, il y a un danger. C'est chaque fois que deux avions qui sont initialement garés en parallèle, proches l'un de l'autre, il y a un danger. Okay? Alors, comment est-ce qu'on va rendre compte de la première phrase? Je vais vous donner une forme logique, mais qui est vraiment très proche de la syntaxe, mais tout ça est simplifié. L'adverbe, chaque fois, va être considéré comme quelque chose qui lie des variables. Donc, pour tous les objets AB, et là, je commence par vous donner la version non iconique. Donc, vraiment, une phrase complètement habituelle. Chaque fois qu'il y a donc, pour tous les objets AB, chaque fois que A est un avion et B est un avion, et A et B décollent simultanément, il y a danger. Okay, ça, c'est une forme logique tout à fait respectable, c'est même très ancien, c'est du type du début des années 80, et ça marche bien, ça vous donne les conditions de vérité qu'il faut. Et la seule chose qu'on va ajouter dans le cas où vous avez des classificateurs, c'est que vous avez ce petit pi, la variable de point de vue qui joue deux rôles. Elle vous dit qu'il y a quelque chose d'iconique dans l'interprétation et elle vous dit quel est le point de vue, quelle est la position de la caméra d'après laquelle il faut interpréter cette iconicité. Donc, mais sinon, c'est exactement la même forme logique. C'est la seule différence, c'est l'introduction de cette petite variable. Et maintenant, évidemment, ce qu'il faut que je vous dise, c'est comment changer les entrées lexicales pour avoir cette interprétation dans laquelle l'iconicité joue un rôle. Même chose, je ne vais pas le faire en détail. Quand vous avez la version non iconique, vous avez quelque chose comme ça qui est simplement une condition qui est que A est un avion. A est un avion relativement à un contexte, une fonction d'assignation, un moment, un monde. Tout ça, c'est un peu de la technique sémantique. Conceptuellement, ce qui se passe dans la version iconique, c'est que vous avez exactement la même chose. Le début, c'est exactement la même chose. Il faut que A soit un avion. Mais en outre, il faut que A se projette vers la représentation de l'avion qui est ici donnée par la position, la direction du classificateur que vous avez. Et donc, vous avez ces deux parties. La partie en noir, qui est la partie lexicale, que vous auriez pour n'importe quel mot, et la partie en rouge, qui est la partie iconique. Et comment est-ce qu'on rend précis cette partie iconique? En faisant usage de cette sémantique des images, de Greenberg et Abush, c'est-à-dire, on va dire, il faut que l'objet A se projette, il faut que l'objet A se projette vers une certaine, vers un certain élément de l'espace de signation, à quel moment, dans quel monde, dans le moment et le monde d'évaluation, de quel point de vue? Eh bien, du point de vue qui est spécifié par cette variable pi. Et ça y est, on a notre système, on a véritablement un système iconologique qui intègre la sémantique logique et l'iconicité. Donc, vous pouvez reproduire ça, ce type de paire minimale, avec d'autres exemples. Donc, par exemple, là, j'ai une paire minimale dans laquelle vous avez en cours, chaque fois que vous avez trois personnes françaises, elles se disputent. Et vous pouvez avoir quelque chose qui va être personne, personne, personne. Personne, c'est juste le nom habituel pour une personne. C'est-à-dire, trois personnes quelle que soit leur configuration. Quand je dis quelle que soit leur configuration, ça veut dire qu'il y a une lecture qui est quelle que soit leur configuration. Il y a une complexité dont je ne parle pas ici. C'est que vous pouvez aussi avoir des lectures iconiques pour les mots normaux. La différence, c'est que les classificateurs, c'est toujours iconique. Donc je simplifie un petit peu pour les besoins de l'explication. Et puis, vous pouvez représenter personne par ce classificateur qui représente une personne assise. Donc, évidemment, il y a une partie lexicale. Ça vous dit que c'est un peu iconique, mais enfin, c'est une partie lexicale, c'est une personne assise. Et vous pouvez aussi mettre les trois itérations dans cette position-ci. Et là, la position des trois classificateurs va être interprétée de façon iconique. Ça va, vous parlez non pas de trois personnes françaises, quelles qu'elles soient, non pas de trois personnes françaises assises, quelles qu'elles soient, mais trois personnes françaises assises proches les unes des autres. Et c'est exactement la même logique. Alors, à ce point-ci, vous pourriez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de ces variables ? Puisque vous voyez, pour l'instant, toutes les variables de point de vue, elles étaient utiles pour dire au système qu'il y a quelque chose d'iconique, qu'il faut utiliser les règles qui sont importées de la sémantique des images. C'était utile aussi pour vous dire quel est le point de vue, mais vous pourriez dire le point de vue, c'est quelque chose qui est donné par le contexte. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de représenter le point de vue explicitement dans une variable ? La raison pour laquelle vous avez besoin de représenter le point de vue explicitement est que cette variable de point de vue peut parfois dépendre de quantificateurs. Ça, c'est le tout premier exemple que je vous avais montré. C'était toujours, il y a un étudiant qui part, et ce toujours, il vous parle de tout un tas de situations différentes les unes des autres. Et donc, il faut que dans les différentes situations, la position de la caméra soit également différente. Et donc, vous voulez la signification qui va être toujours, il existe un certain point de vue saillant, tel que, il y a un étudiant qui fait ceci, et là vous produisez l'animation visuelle, du point de vue de ce point de vue saillant, relativement à ce point de vue saillant. Donc ça, on l'a déjà fait. Et la chose que je veux faire maintenant, c'est vous montrer que parfois, vous avez besoin de deux variables de point de vue dans la même phrase. Et donc là, ça va être très utile d'avoir des variables, parce que sinon tout va être mélangé. Et donc, c'est cet exemple-ci, qui maintenant, c'est le signeur fait un cours de philosophie et un cours de linguistique, mais dans différents bâtiments. Et la phrase dit, il y a un certain étudiant qui, pendant la pause du cours de philosophie, et là, vous allez avoir quelque chose comme ça. Et pendant la pause du cours de linguistique, fait ça. Oui, vous avez ces deux mouvements, ces deux quantificateurs, vous pouvez les moduler. Il y a tout un tas d'autres conditions. Ça peut être lentement, ça peut être rapidement. Et puis, vous pourriez avoir des détours parce que c'est totalement iconique. Évidemment, l'intuition, comme c'est le pauvre prof qui vous raconte ça, c'est que le point de vue de l'animation, c'est le point de vue du prof. Et donc, évidemment, si je vous disais ça et que j'enseignais toujours mon cours dans cette salle-ci, vous diriez, bon, y a une variable unique, c'est le point de vue correspondant au point de vue du prof dans ce cours, donc ça correspond à la position d'une caméra vidéo dans ce cours, et puis ça signifierait que dans ce cours, il y a cet étudiant qui, quand j'enseigne la philosophie, il part là-bas par la droite, et quand je fais avec la linguistique, il part aussi, mais par la gauche. Mais le contexte, c'est un contexte plus sophistiqué où le prof enseigne ses deux cours dans des bâtiments différents. Et donc, c'est absolument essentiel maintenant que le point de vue soit autorisé à être un point de vue différent. Il va y avoir un point de vue correspondant au mouvement comme ça, et un autre point de vue correspondant au mouvement comme ça, parce que ce sont deux salles de cours différentes. Et donc la forme logique que vous allez avoir pour la proposition relative, je ne représente pas l'ensemble de la phrase, c'est que le premier classificateur, il va avoir une certaine variable pi correspondant au point de vue saillant dans la salle de philo, et le second classificateur va avoir une autre variable de point de vue pi' correspondant au point de vue saillant dans la salle de linguistique. Et maintenant, je vais vous montrer des versions de cette phrase, version semi-anonymisée. J'ai un étudiant qui, dans le cours de philo, à la pause, toujours fait ça. Dans le cours de linguistique, à la pause, toujours fait ça. OK ? Et là, clairement, pour avoir les bonnes conditions de vérité, il faut avoir ces deux variables. Okay. Donc, il y a tout un tas de choses qu'il faut ajouter à ce cadre, mais ce que je veux dire ici, c'est que ce que j'ai fait d'emblée, c'est-à-dire de mettre ces variables de point de vue pour dire au système d'interprétation qu'il y a quelque chose d'iconique, une fois que vous avez ces variables de point de vue, vous pouvez en faire certaines choses. Elles peuvent dépendre de certains quantificateurs et vous pouvez avoir différentes variables de point de vue dans la même phrase. Alors, je veux, pour la fin de cet exposé, montrer que ce que l'on a conclu sur la sémantique s'applique aussi à la syntaxe. C'est-à-dire que, outre la syntaxe dont Luigi Ricci a parlé dans ce cours, il y a, peut-être à la marge, mais il y a une syntaxe iconique qui provient très probablement de la sémantique iconique de certains éléments. Et les principes de cette syntaxe vont être complètement différents. Et l'enjeu pour le long terme va être de savoir comment fonctionne l'interaction entre la syntaxe iconique et la syntaxe habituelle. Et là, je vais juste faire le début pour vous montrer qu'on a besoin de ce cadre ou ce module de syntaxe véritablement iconique. Donc, l'observation ancienne, c'est que, alors que l'ordre des mots en ASL, l'ordre des mots de base, c'est sujet, verbe, objet, pour les classificateurs, très souvent, on a un objet préverbal. Là, c'est un très vieil exemple de Liddell, 1980, qui dit un chat était sur la barrière. Vous allez d'abord signer la barrière, puis le chat, puis la représentation du chat sur la barrière. Et ce qui est important, c'est que ici, vous allez avoir ce qui correspond au verbe. Ici, c'est un peu compliqué parce que le verbe, c'est un classificateur sur un autre à la fin. Mais cette analyse, en fait, n'est pas entièrement correcte. Ça dépend de la sémantique des prédicats verbaux. C'est la même chose que ce que j'ai appelé des classificateurs. Des classificateurs verbaux. Je me suis trompé. Donc, tout dépend de la sémantique des classificateurs verbaux, qui sont la même chose que ce que j'ai appelé des classificateurs. Et c'est cette généralisation sur laquelle je veux attirer votre attention, qui n'avait pas été formulée dans ces termes-là. C'est que quand vous avez un crocodile ou une baleine qui va se déplacer ici, donc là je change, avant j'avais le crocodile, maintenant j'ai quelque chose pour une baleine, se déplace, il va avaler une personne qui sera recrachée. Donc, va avaler une personne, et bien là, la généralisation, c'est que la personne doit être préverbale. Pourquoi ? Parce que dans une scène comme celle-ci, vous allez voir la baleine et la personne avant de voir le déplacement de la baleine qui avale la personne. Pourquoi est-ce qu'on a toujours ce déplacement ? C'est parce que ce déplacement très très libre, c'est l'une des caractéristiques des classificateurs. Ce n'est pas qu'on en a besoin en tant que tel, c'est pour prouver que ce sont... Vous voyez, on a ce déplacement complètement libre et arbitraire qui montre qu'il s'agit bien de classificateurs. C'est pour ça qu'on a fait ça. Alors, résumer un peu ce qui se passe, donc là, vous avez différentes images. Hein. Vous avez ici la baleine qui se déplace, et qui mange la personne. Bon, cet ordre-là, vous voyez, si vous demandez quelle est son acceptabilité avec une échelle à 7 degrés, c'est pas très mauvais, c'est 6. Et en fait, les jugements d'acceptabilité ne sont pas extrêmement informatifs. Vous pouvez avoir essentiellement la généralisation avec un consultant qui a beaucoup d'habitudes, etc. Mais ce n'est pas en fait ce qui est le plus frappant. Le plus frappant, ce sont les sens. C'est que pour avoir le sens cible, il faut avoir ici, vous avez une préférence en termes d'acceptabilité pour la position préverbale de l'objet, mais c'est une préférence relativement faible. Et ce que je veux maintenant discuter, c'est ce qui se passe quand vous modifiez minimalement le sens pour que, au lieu d'avoir avalé, vous ayez recraché. Donc là, c'est un contexte dans lequel vous allez dire quelque chose qui est avant-hier, une baleine a mangé une personne. Et là, on utilise le manger complètement neutre, pas du tout iconique. Et puis ensuite, vous allez continuer en disant hier, la baleine. Et puis là, a bougé et a recraché la personne. Et là, c'est vraiment le cas dans lequel les indications d'acceptabilité ne sont pas très informatives. Mais quand vous regardez le sens, vous vous rendez compte que pour avoir le sens cible où la baleine a recraché la personne, il faut absolument cet ordre SVO qui correspond à l'ordre dans lequel vous voyez la scène. Vous voyez la baleine, la personne n'est pas vue parce qu'elle est dans le ventre de la baleine, elle est recrachée et seulement à la fin, vous voyez la baleine. Et si vous utilisez un ordre avec un objet préverbal, ce n'est pas que la phrase est très mauvaise, c'est qu'elle n'a pas le bon sens. Le sens que vous avez, si vous mettez l'objet avant le verbe, c'est la baleine. Et ça, vous l'interprétez comme elle a craché quelque chose sur la personne, ou elle a crié sur la personne, ou elle a crié contre la personne. Et ça, c'est exactement compatible avec la généralisation. C'est que comme vous avez l'objet avant le verbe, eh ben vous vous dites « Ah, c'est qu'on voit la personne avant de voir l'action ». Et vous réinterprétez de façon à ce que vous ayez un sens qui corresponde à ça. Donc, ce sont des faits un petit peu subtils, mais quand vous regardez à la fois l'acceptabilité et que vous regardez l'interprétation, ça a l'air, je pense, d'être assez robuste. Et maintenant, donc vous avez cette généralisation qu'on a appelée généralisation de visibilité, qui a des précédents dans la littérature, mais dans la littérature, elle n'avait pas été énoncée correctement. Elle n'avait pas été énoncée en termes de littéralement qu'est-ce que vous voyez dans une scène. Les gens s'étaient en fait un peu trompés de généralisation. Ils avaient dit c'est une différence entre extensionnel et intentionnel, ce qui n'est qu'une assez petite partie de ce qui se passe à mon avis. Donc, si vous l'énoncez comme ça, la position des arguments du classificateur, donc le classificateur, ça peut être la baleine qui se déplace, ça peut être le crocodile qui se déplace, les arguments de ce classificateur verbal va dépendre du sens, et en particulier l'objet va être avant ou après le verbe selon que dans la scène typiquement la dénotation de l'objet est vue avant ou après l'action, et donc c'est essentiellement une méthode que l'on utiliserait dans des bandes dessinées. Et je veux juste vous montrer quand même à quoi ressemble ces exemples. Donc là, je vais vous montrer l'exemple qui est un peu bizarre parce que c'est SVO pour avaler une personne. Juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Hier, une baleine a avalé une personne. Ok, ça c'est l'exemple un peu bizarre. Hier, une baleine, une personne, la baleine a avalé la personne. Et ça c'est bon. Et en fait, il se peut même que vous ayez des intuitions là-dessus. Alors, donc, l'analyse à ce point-ci dit essentiellement qu'il faut utiliser un autre mode de composition que le mode syntaxique habituel pour rendre compte de ces cas-là. Et en un sens, ce n'est pas un mode, disons, grammatical au sens habituel. C'est grammatical en un sens élargi. Et si véritablement c'est un mode qui est issu du caractère pictural des images et pas de la grammaire de la langue des signes américaine en tant que telle, vous vous attendez à ce qu'on retrouve ces généralisations avec les gestes. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé. Et on a revisité de ce point de vue-là une très vieille découverte et très remarquable découverte de Golan Meadow qui disait que quand vous demandez à des locuteurs de langues complètement différentes, avec des ordres des mots sous-jacents complètement différents, de mimer une scène, eh bien, la partie du geste, donc va y avoir une partie qui correspond, que sais-je, à une bouteille, une action d'ouvrir, casser, d'ouvrir, etc. Donc, va y avoir des choses correspondant au sujet, au verbe et à l'objet. Et en fait, quel que soit la grammaire de la langue native des locuteurs, vous retrouvez des objets préverbaux, y compris donc pour l'anglais, par exemple, dont l'ordre des mots est SVO. Mais si vous demandez aux gens de mimer une scène, ils vont utiliser SOV. Okay? Et nous, on a relu cette généralisation-là à la lumière de la langue des signes américaine. On s'est dit, mais et si cette généralisation était fausse? Et si en fait ce qui se passe, c'est que c'est uniquement dans la mesure où l'objet est visible avant l'action que l'on trouve ça. Et même chose, c'est là où il y avait ces généralisations en termes d'extensionnel, intentionnel. Donc il y avait une idée qui allait dans le même sens, mais nous, on a vraiment repris les mêmes paradigmes. Alors ce n'est pas une expérience complète, c'était une enquête avec une dizaine de consultants, et il faudrait que ce soit étendu d'un point de vue expérimental. Mais là, vous avez maintenant une phrase française qui est « Je me baladais le long d'une rivière et il y avait un crocodile et il y avait un ballon ». Et vous voyez, on introduit les gestes de façon co-verbale pour être sûr qu'ils sont bien compris. Tout à coup, je m'approche et je me rends compte que et là, vous faites un truc comme ça, où vous intégrez des gestes dans une phrase. Et en fait, si je fais les choses comme ça, et tout à coup, je me rends compte que, ben ça marche moins bien que si vous mettez l'objet avant le verbe. Et tout à coup, je me rends compte que, et là, c'est mieux. C'est mieux, et c'est exactement ce que nous ont dit nos consultants, c'est que c'était mieux si on avait un objet préverbal. Et ensuite, on fait exactement la même chose avec un contexte un peu plus compliqué. Donc, hier, je me baladais dans la rivière et je vois un crocodile et je vois un ballon et tout à coup, je me rends compte que le crocodile mange le ballon. Mais heureusement, 2 minutes plus tard, je m'aperçois que et là, dans le cas où vous recrachez le ballon, vous retrouvez une préférence pour l'ordre SVO. Et c'est la même chose, vous pouvez aussi avoir des questions sémantiques, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement que vous aurez un truc inacceptable si vous avez le mauvais ordre, mais vous n'aurez pas le bon sens. Conclusion. Les langues signées ont les mêmes outils logico-grammaticaux que les langues parlées, mais dans certains cas, pas de façon systématique, dans certains cas, elles les rendent plus visibles. C'était le cas des lieux comme réalisation explicite des variables. Pour analyser l'iconicité des signes de façon explicite, on a besoin d'intégrer à la linguistique formelle la sémantique formelle des images développée par Greenberg et Abush. Cette sémantique formelle des images est définie presque relativement aux mêmes paramètres que la sémantique linguistique. Quand on regarde en particulier le système de Dorita Bush, il va y avoir une fonction d'assignation, un moment d'évaluation et un monde d'évaluation. La seule chose qui manque, c'est le point de vue, qui joue un rôle crucial dans la sémantique des images. La sémantique iconologique fait cet amalgame entre la sémantique logique et la sémantique des images en mettant des points de vue, des variables de points de vue dans le langage objet. Et de cette façon-là, ces variables de points de vue codent le fait qu'il y a quelque chose d'iconique et simultanément indiquent au système quel est le point de vue relativement auquel on évalue l'iconicité. Une fois que l'on a ces variables de points de vue dans le langage objet, ils peuvent dépendre, ils peuvent interagir avec le reste de la grammaire. Ils peuvent dépendre de certains quantificateurs, et vous pouvez avoir différentes variables de points de vue dans la même phrase, ce que j'ai montré dans certains exemples. Et cette conclusion à laquelle on a abouti pour la sémantique, à savoir que l'on doit étendre de façon assez radicale la sémantique la sémantique formelle avec une composante iconique semble s'appliquer à la syntaxe également. Il faut étendre la syntaxe avec un autre module qui est un module de syntaxe iconique. Évidemment, dans les deux cas, la question est quelle est l'interaction entre les modules traditionnels que l'on connaît et ce module nouveau. Ce sur quoi je veux insister, c'est que dans la littérature, il y a eu traditionnellement une bataille rangée entre approche formelle et approche iconique. Mais si j'ai raison, tout ça n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il faut prendre en compte totalement les phénomènes iconiques. Il ne faut surtout pas jeter les cadres très détaillés, explicatifs de la linguistique formelle, mais se demander comment l'intégration doit se faire dans le cadre d'une sémantique formelle élargie et d'une syntaxe formelle élargie. Ces résultats, en fait, dans les deux domaines, et je ne l'ai pas fait dans le cadre sémantique pour des raisons de temps, je l'ai fait dans le cadre syntaxique, peuvent s'étendre au geste. Parce que si vous avez une partie du langage qui est une partie totalement iconique, vous vous attendez à la trouver également en geste dans les langues parlées. Et c'est ce qu'on a vu pour la syntaxe iconique. Si j'avais plus de temps, je montrerai des choses similaires pour la sémantique iconologique. Et la conclusion principale, c'est que je pense que la langue des signes continue à avoir un rôle absolument crucial à jouer dans l'analyse des fondements de la sémantique. Je pense également des fondements de la syntaxe et dans la linguistique formelle en général. Et je conclurai sur une note importante, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de travail là-dessus, mais en particulier avec et surtout par des locuteurs natifs. Je veux finir en remerciant tous mes co-auteurs. J'ai remercié Jonathan Lamberton qui a joué un rôle crucial pour tout, mais je veux remercier également tous les co-auteurs de cette étude sur la syntaxe iconique. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.